Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Nous lisons tout d'abord dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Et la deuxième lecture de ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, et nous lisons les versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Ce matin, c'est Pâques, et puis on dit que tous les matins, c'est Pâques, et demain matin, lundi, ça sera Pâques. Au Boxvasen, à 1200 mètres, pour la douzaine de catéchumènes qui sont là-haut, qui attendent des pasteurs, et comme ils n'ont pas la chance d'être avec nous ce matin, demain matin, on va aller le réveiller tôt, il ne faut pas leur dire, pour aller fêter la résurrection. Décalé d'un jour. Ou alors c'est nous qui sommes en avance. Et on va leur dire quatre choses que nous vous proposons de dire ce matin. Je vais en dire deux et Fabien en dira deux. La première chose, c'est que L'histoire continue. Sinon, on ne serait pas là ce matin. Et sinon, demain matin, nous ne serions pas là-haut. L'histoire continue alors que, curieusement, la semaine sainte et l'histoire de Jésus est un échec. Au moment où Jésus meurt, son histoire ne mériterait même pas une ligne dans une encyclopédie de l'histoire de l'humanité. La grande singularité de Jésus par rapport aux autres fondateurs de religion est qu'au moment de sa mort, le bilan de sa vie reste un échec. C'est un échec dont témoigne peut-être le samedi où il n'y a plus rien. Moïse, lui, est mort à un âge respectable après avoir conduit son peuple à la liberté. Bouddha serait décédé vers 80 ans, paisiblement au milieu de ses disciples, après avoir suscité une grande communauté de moines. Confucius, revenu à la fin de sa vie à Lu, d'où il avait été chassé, s'éteint paisiblement après s'être consacré à la formation d'un groupe de disciples. Mahomet, après avoir savouré les dernières années de sa vie comme chef politique de l'Arabie, meurt dans les bras de sa favorite. Le fondateur de l'islam est un chef militaire, alors que le fondateur du christianisme a refusé tout pouvoir, autre que celui de la parole. Et seule la mort de Socrate pourrait se comparer à celle de Jésus. Dans la mesure où il est injustement condamné à mort, ceci dit, il est contraint de boire la ciguë à un âge relativement avancé, meurt entouré de ses disciples tout en discutant sur l'immortalité de l'âme. Jésus, lui, est mort, jeune, rejeté par la foule, renié par ses disciples, condamné par les autorités civiles et religieuses, abandonné des hommes et, dit-il, sur la croix même, abandonné de Dieu. En outre, il meurt d'un supplice qui reste parmi les plus horribles et les plus barbares que les hommes aient trouvés. Alors comment de rien, d'un échec, va naître une histoire qui influence notre histoire depuis près de 2 millénaires. Alors est-ce peut-être un hasard, un retournement de l'histoire? Ou bien les disciples auraient-ils poursuivi après sa mort en prenant une, quelque sorte le relais? Peut-être se sont-ils dit, nous n'avons pas été capables de l'accompagner jusqu'au bout. Maintenant, nous devons nous relever et pour être crédibles, nous allons inventer une histoire de résurrection. C'est une hypothèse. Mais j'ai du mal à croire à cette hypothèse. Je préfère faire crédit à ces hommes et à ces femmes et écouter ce qu'elles disent. Ils disent « le tombeau est vide » et Marie-Madeleine va même dire « je l'ai vu ». D'ailleurs, elle le voit au moment où elle lui tourne le dos. Si vous reprenez le texte de Jean 20, elle se tourne une première fois pour voir Jésus, et au moment où Jésus l'appelle par son prénom, elle se retourne, donc elle lui tourne le dos, et c'est à ce moment-là qu'elle le voit. Mais là, ça serait tout un chapitre sur le voir, dans le chapitre 20. Alors, je préfère faire crédit à ces gens, et un historien, Henri Guillemin, qui a cherché avec les outils qui étaient les siens à relire l'histoire, écrit: le constat de l'histoire ne peut pas être « Jésus de Nazareth ressuscita, car nul ne sait au juste ce qui s'est passé. » Mais l'histoire se doit d'enregistrer comme un fait établi, indéniable, comme une certitude exempte du moindre coupage de doute que les disciples ont cru, comme on croit à une vérité d'évidence, avoir revu vivant celui qui venait d'expirer. Il n'est pas absurde d'accorder quelques crédits à la parole de ses disciples qui disent l'avoir revivant et qui, à partir de cette expérience, vont se voir transformés. Il y aura un avant le tombeau et un après le tombeau vide. L'histoire continue. Et cette histoire continue à partir de cet événement d'une absence, d'un tombeau vide, qui nous permet alors de relire le reste de l'histoire de Jésus, de prendre au sérieux et de nous intéresser à l'ensemble du message qui pose la question de la confiance, de la foi. Voilà la première chose que j'aurais envie de leur dire demain matin, peut-être différemment, mais leur dire que l'histoire continue, sinon nous ne serions pas là ce matin, et sinon eux ne seraient pas là demain matin à 1200 mètres près du petit ballon. L'histoire continue. Et la deuxième chose que je leur dirais, c'est que la résurrection est d'abord une contestation. Une contestation de l'injustice et du mal. D'une certaine manière, cette parole du tombeau vide est une manière de dire tout ce que vous avez fait envers Jésus, dit Dieu, n'est pas bon. Vous l'avez abandonné, je le considère comme mon fils. Vous l'avez sorti de l'histoire, je le rétablis au cœur de l'histoire. Vous l'avez exclu de l'humanité digne de vivre en le mettant sur une croix, je le réhabilite comme l'humain par excellence, souffrant, blessé. Vous l'avez tué, je le fais revenir à la vie. Vous l'avez considéré comme sans importance, petit, raté, en échec, sans succès, sans réussite, à jeter. Dieu le considère comme au-dessus de tout et le remet au centre de la vie. Par cette parole du tombeau vide, je vois Dieu qui renverse ce que nous, nous considérons comme juste et vrai pour remettre au cœur de la vie celui qui avait été rejeté, celui qui était en échec, pour réorienter nos regards et nos manières de voir nos vies et le monde. La résurrection est d'abord une parole de contestation contre le mal, contre l'injustice et contre nos manières de voir le monde, Dieu et nous-mêmes. En fait, Fabien, maintenant c'est à toi de monter là. Si l'histoire continue, donc c'est bien qu'il y en ait un qui descende et un autre qui monte.
L'histoire continue donc, sans preuve, et elle vient contester la réalité humaine. Mais pour la contester, il faut la prendre au sérieux. Et la foi chrétienne veut prendre au sérieux la situation humaine. Nous disions vendredi que la souffrance en christianisme est prise au sérieux, qu'elle n'est pas niée, qu'elle n'est pas cachée, mais qu'elle est non seulement entendue, mais traquée pour être combattue. Il en est de même pour la question de la mort, qui n'est pas évacuée et même veut être prise à bras le corps. Non pas pour se mesurer à elle, mais pour bien faire comprendre que depuis Pâques, elle n'a pas le dernier mot. Tenir dans l'annonce de la résurrection ne peut se faire que si l'on sait de quoi on parle. Et les évangiles ne font pas l'impasse sur la mort, sur le deuil, sur la perte. La modernité, sous couvert d'une émancipation un peu incantatoire, est aussi prompte à moquer la résurrection du Christ et à la balayer d'un revers de main qu'elle se voile la face quand vient l'heure d'affronter la mort. Ce n'est pas nouveau. Voltaire, déjà, dans son dictionnaire philosophique, consacre un article à la résurrection, dans lequel, sur un ton ironique, il se demande, avec condescendance, si l'on ressuscitera avec le corps de nos 20 ans ou avec celui de nos 80 ans. Ou encore, comment feront les corps mangés par des anthropophages ? Mais je n'accablerai pas Voltaire, qui, après avoir passé sa vie à moquer la foi chrétienne, fut pris de panique au moment d'affronter la mort et fit appeler un abbé pour s'amender et calmer sa conscience. Dès les premiers temps de l'espérance chrétienne, en fait, la joie intérieure de celles et ceux qui, comme nous, se sont sentis irradiés par la puissance de la résurrection, a été confrontée à l'épreuve de la réalité qui se traduit parfois, souvent, par l'incompréhension de ceux qui nous entourent. Cela, il faudra le dire aussi aux catéchumènes. Et c'est ce phénomène auquel tout chrétien qui témoigne a déjà été confronté qui incitera l'apôtre Paul à donner des détails aux habitants de Corinthe, par exemple, qui, comme nous, peinent à répondre à ceux qui les questionnent et les pressent de s'expliquer en détail sur la résurrection. Or, Jésus lui-même est avare de détails. Aux Sadducéens, ces Juifs dont la Bible nous apprend qu'ils ne croient pas en la résurrection et qui viennent à sa rencontre pour le questionner à ce sujet, Jésus répond « Pour ce qui est de se relever d'entre les morts, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré ? Il a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu des vivants et non pas des morts. Dieu est le Dieu des vivants, c'est entendu. Mais qu'est-ce qui permet de croire envers et contre tout ? Qu'est-ce qui permet de passer du Dieu des vivants au Dieu vivant ? De passer de Dieu, du grand horloger, à Christ ? Pour répondre à cette question, il faut, je crois, admettre que le réel auquel se confronte notre foi n'est pas la réalité. Car notre réalité, la réalité des disciples du Christ, a été modifiée par la révélation d'une transcendance qui a fait littéralement exploser les cadres en vigueur jusqu'alors dans nos vies. De même que la béance du tombeau vide percute la réalité de Marie-Madeleine, l'irruption du Christ nous a bouleversés, de sorte que nous pouvons dire, comme elle, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Ou plus pudiquement, « Je crois. » Cet événement peut avoir lieu à l'âge adulte, mais aussi très tôt dans l'enfance. Nous en faisons l'expérience ici, avec les tout-petits. Il peut avoir lieu à 15 ans, au terme de 3 années de formation au bouclier. Il peut avoir lieu sur notre lit de mort, comme notre ami Voltaire. Il peut avoir lieu, en fait, plusieurs fois, se répéter même quotidiennement, de manière à illuminer nos vies à l'infini. Notre lecture du monde se trouve alors transformée, non seulement par l'enseignement du Christ, par ses paroles, par son éthique, par ses gestes, mais surtout par sa mort sur la croix et sa victoire sur la mort. Alors que nous soyons des fidèles, sincères, mais qui ne comprennent pas tout, à l'image de Marie de Magdala, que la résurrection interroge, que nous restions sans voix comme Pierre qui reste pétrifié devant le tombeau vide, ou que notre foi coule de source comme le disciple bien-aimé. Mais ne sommes-nous pas tour à tour, chacun un peu des trois à la fois? Nous sommes capables d'avoir une lecture de notre vie à la lumière de cet événement. Nous sommes capables d'aller dans le monde, de nous confronter à lui, de nous confronter à sa réalité, et même de proclamer cette phrase que nous ne voulons plus taire: j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Ainsi, et je terminerai par là, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, les chrétiens de la terre sont rassemblés au nom du Dieu des vivants, au nom du Dieu vivant. Et le Christ n'a jamais été aussi présent partout où les croyants le célèbrent. Il est parmi nous ce matin, et sa présence nous fait du bien. Alors à vous qui êtes venus ici ce matin pour entendre ce qu'au fond vous savez déjà, à vous qui aimez vous rassembler au nom de cette réalité qui vous habite, profitez. Profitez de cette joie intense de Pâques. Priez pour que cette joie résiste à la confrontation au réel et soit une source de bénédiction pour celles et ceux qui, à partir d'aujourd'hui, croiseront votre route. Christ est ressuscité. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.